Jean-Marcia, merci de répondre à nos questions. Bonjour.
Bonjour.
Que pensez-vous d'ICAN France, si vous les connaissez, et du désarmement nucléaire comme une nécessité absolue pour sécuriser le monde, et pas seulement à long terme, mais à court terme, dans le contexte géopolitique mondial actuel? Et pensez-vous que cela soit réalisable? Ou comment évaluez-vous l'impact social et économique de cette dénucléarisation sur la sécurité mondiale?
Alors, je me suis informé sur la campagne internationale pour abolir les armes. Je sais que le 7 mars 2025, à New York, les États partisans du rejet des armes nucléaires ont affirmé que la dissuasion nucléaire menace la... Là-dessus, je suis d'accord, j'ai l'expérience du nucléaire militaire au sein de l'armée belge. Et ces États ont condamné toute rhétorique ou action qui porte atteinte au tabou mondial des armes nucléaires. Alors, je suis par conséquent condamné, et je m'en moque, car je considère que c'est la dissuasion qui m'a permis de vivre en paix en Europe, plus exactement l'absence de guerre chaude en Europe, tandis que l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine ont été au cours de ma vie régulièrement ensanglantées. Les personnes qui veulent la fin de la dissuasion sont à mes yeux de dangereux fauteurs de guerre. Des guerres, il y en a une quarantaine en cours dans le monde aujourd'hui. Celles qui ont lieu en Ukraine, dans l'est du Congo, au Soudan, au Yémen, ne sont que les plus médiatisées. Je me rappelle aussi qu'en 1991, pour parler français, l'Ukraine avait plus d'armes nucléaires que la Grande-Bretagne, la France et la Chine. L'Ukraine y a renoncé en échange d'un mémorandum signé à Bucarest en 1994,
oui,
par lequel la Russie, les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni ont garanti l'intégrité territoriale de l'Ukraine en échange de sa ratification du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. En 1996, ces dernières armes nucléaires sont allées en Russie pour y être démantelées. Et en 2014, et plus encore depuis le 24 février 2022, Poutine a violé le mémorandum de Bucarest et le traité russo-ukrainien de 1997, sans parler de la Charte des Nations Unies.
Très bien. Alors, sur cette question, vous avez donné votre position. Je passe à la deuxième question. Constatez-vous une évolution de la perception de votre position historique en faveur d'une Europe de la défense, considérée encore il n'y a pas très longtemps comme marginale, voire idéaliste, comme celle d'ailleurs de l'Europe fédérale? Et que vous inspire alors ce changement d'attitude récent au sein de l'Union européenne et plus largement en Europe? Je pense au Royaume-Uni, qui semble faire son retour sur la scène européenne quand il s'agit maintenant de défense, et surtout à un moment où le grand frère américain, l'administration Trump plus exactement, ou Trump lui-même, fait désormais défaut. On ne sait pas si ce sera définitif, mais en tout cas, pour l'instant, les choses sont ainsi.
Alors, vous avez utilisé ou qualifié ma position de marginale, voire d'idéaliste. Personnellement, je préférais le terme d'utopiste, parce que l'utopie, c'est un ouvrage qui a été publié au XVe siècle à Louvain, en Belgique, écrit par Thomas More, qui décrivait ce que pourrait être un État démocratique. Il a fallu quelques siècles pour que ça se concrétise, mais formuler une utopie, c'est déjà un début d'existence. Je constate que dans les milieux militaires et dans le grand public, la nécessité d'une défense européenne et donc d'une Europe fédérale gagne du terrain. Mais ce n'est pas encore le cas, ni chez les diplomates, ni chez les décideurs politiques qui vivent dans des tours d'ivoire. Les instances européennes et le Royaume-Uni communiquent dans le bon sens pour la défense ces derniers temps, mais tous les États continuent à rejeter le fédéralisme, et cela dure depuis 1950. Les seules exceptions ont été à l'époque où Charles de Gaulle et Adenauer, puis le chancelier Kohl, plaidaient pour une confédération en attendant une fédération.
Comment, pour revenir à la doctrine nucléaire, comment pourrait-on articuler la doctrine nucléaire avec la défense européenne? quelle forme pourrait prendre cette défense européenne nucléaire du point de vue militaire en termes de coordination ou de commandement? Croyez-vous à un parapluie nucléaire européen possible?
Oui, je crois à un parapluie européen possible et souhaitable. Pour le concevoir, je m'inspire pour l'Europe de la pensée de Charles de Gaulle, qui a conçu pour la France la dissuasion du faible fort, afin de sanctuariser la France et de restaurer ainsi sa souveraineté, sans toutefois renoncer à la solidarité avec les alliés. Il l'a montré lors de la crise de Cuba en 1962 notamment. Au sein de la Société européenne de défense, nous plaidons pour une défense européenne fédérale avec dissuasion nucléaire et l'interdiction sous peine de sanctions pénales de toute guerre d'agression. Comment faudrait-il concevoir une défense européenne? Ben, si on a un État fédéral avec un chef de l'État ou un chef de gouvernement qui soit le chef des armées, il faudra le doter d'une structure de commandement comme il en existe une à l'Élysée, quartier général Jupiter, je crois que vous appelez ce service, et que ce service puisse avoir le moyen d'activer les armes nucléaires, qu'elles soient portées par des avions, qu'elles soient éventuellement, ce que la France n'a plus, mais elle l'a eu, qu'elles soient portées par des missiles sol-sol, ou qu'elles soient portées par des sous-marins porteurs de missiles balistiques. Voilà, ça c'est l'expression très simple de ce qu'il faudrait faire. Il faudrait donc une sorte de commandement des forces stratégiques européennes, mais qui n'est concevable que s'il y a un chef d'État ou de gouvernement, chef des armées, qui soit la personne apte à mettre en œuvre cette force de dissuasion.
Et cette personne ne peut pas être le président d'un des États membres?
Non, je comptais le dire dans la prochaine réponse, mais c'est... voilà, j'y viens tout de suite alors.
Oui.
Vous vous souvenez que les présidents Chirac et Macron ont plaidé pour ouvrir le parapluie nucléaire français afin de couvrir l'Europe. Mais Poutine estimait à l'époque de Chirac, et estime toujours aujourd'hui, que ce n'est pas crédible. Que la France, ni la Grande-Bretagne d'ailleurs, hein, la France ne va pas risquer Lyon, puisque vous êtes à Lyon, pour protéger Riga. Donc il faut se souvenir que dissuader, ce n'est pas seulement déployer des moyens, c'est avant tout persuader l'adversaire que l'on est prêt à les utiliser. Et ça, ben, une présidente de la Commission européenne ou un quelconque chef d'État de l'Europe n'est pas l'issue. N'est pas suffisamment crédible, n'est pas suffisamment légitime que pour persuader tout adversaire que l'on est prêt à utiliser les moyens de dissuasion.
Pour sortir de la doctrine nucléaire liée avec la défense européenne, récemment, donc les réunions sont nombreuses hein, des membres de l'UE avec maintenant le Royaume-Uni qui veulent aboutir à ce qu'ils appellent une coalition de volontaires. Alors, dans un premier temps, pour garantir la paix durable en Ukraine, donc comment? Et aussi pour se doter de capacités militaires stratégiques autonomes pour l'Europe. Alors, quels seraient, selon vous, les principaux éléments nécessaires à la mise en place d'une défense européenne qui soit efficace d'un point de vue militaire? Et comment vous envisagez la coordination entre les forces armées des différents États membres de l'UE et des pays européens faisant partie de l'OTAN qui existe toujours néanmoins? Est-ce que c'est la construction d'un pilier européen de l'OTAN une consolidation de du pilier européen de l'OTAN? Est-ce que c'est sortir de l'OTAN? Comment vous percevez les choses et que pensez-vous de cette coalition de volontaires? Qu'est-ce qu'elle veut dire pour vous?
Elle ne veut, en l'état actuel des choses, elle ne veut pas dire grand-chose. Ça reste de la communication. Les politiciens aujourd'hui me semblent croire que quand ils ont communiqué...
Ils ont fait. Ils ont agi.
Voilà. Et il y en a très peu qui dépassent la communication pour aller à l'action. C'est assez déplorable. Donc je vais je vais reprendre les points de votre question. Oui. Les déjà nombreuses réunions à géométrie variable des dirigeants européens depuis l'investiture de M. Trump le 20 janvier dernier,
oui,
ont surtout mis en évidence l'absence d'unanimité. Ces réunions n'ont donc débouché en conséquence que sur des annonces qui tardent à se concrétiser. Seule l'Allemagne a agi en modifiant sa constitution afin de pouvoir se réarmer à crédit. Les autres pays n'ont généralement pas les moyens financiers ni militaires de leur politique ou sont réticents à agir parce qu'ils sont trop proches de M. Poutine ou de M. Trump, je ne citerai pas de nom, mmh, tout le monde les connaît.
Oui.
Le principal élément nécessaire à la mise en place d'une défense européenne efficace d'un point de vue militaire, c'est la mise en place d'un État fédéral, car les États ont le monopole de l'usage légitime de la force armée. L'Union européenne, ou une coalition de volontaires, c'est encore pire, l'Union européenne n'est qu'une association d'États, les traités ne lui donnent pas de compétences en matière de défense, et donc elle ne pourra pas évoluer vers un État. Si on veut faire un État, il faut le faire comme on a fait la zone de Schengen, par exemple. Au début, les trois pays du Benelux, et puis à Schengen, la France et l'Allemagne ont rejoint pour constituer un noyau fondateur d'une zone sans frontières intérieures. Et puis ce noyau s'est élargi, et puis un jour, ce noyau s'est marié avec l'Union européenne. Ici, c'est plutôt l'État fédéral qui finira par absorber l'Union européenne, tout comme l'Union européenne a absorbé, il y a quelques années, l'Union de l'Europe occidentale.
Alors, je me permets de prolonger, si vous voulez bien, notre discussion par rapport à cette thématique, parce qu'on voit bien que vous revenez toujours à la nécessité d'un État fédéral. Bon, et que voyons-nous ? La montée des nationalismes en Europe. Donc on est dans une impasse stratégique.
Oui, mais la montée des nationalismes vient, à mon sens, principalement du fait que les gens attendent la fédération européenne annoncée le 9 mai 1950 par M. Robert Schuman, relisez son discours, et que ça fait des années et des années qu'on ne la fait pas. Et donc ils constatent que l'association d'États Union européenne ne fonctionne que dans certains domaines.
Économique ou de guerre commerciale, voire même.
Voilà, oui, parce qu'elle est vraiment compétente pour représenter l'Europe en matière commerciale. Et c'est très utile. Mais l'Union européenne n'est pas équipée, n'est pas faite pour gérer des crises, surtout pas des crises de nature militaire, parce que vous ne savez pas gérer ce genre de crise avec un conseil d'administration comportant 27 membres. Voilà. Donc, ce que je voulais encore ajouter en réponse à votre question, c'est que la coordination entre différents États volontaires ne suffit absolument pas. L'OTAN la pratique depuis 75 ans entre ses États membres. Et ça ne fonctionne pas bien. L'OTAN n'a pas pu abroger les frontières intérieures européennes pour les militaires, comme l'Union européenne a pu le faire pour la zone Schengen, pour les civils. L'OTAN n'a pas réussi à rendre les dépenses de défense de ses États membres européens plus efficientes, c'est-à-dire qu'on ait plus de capacités militaires pour le même argent. Il y a vraiment qu'en France, au jour d'aujourd'hui, que les moyens militaires sont utilisés d'une manière plus ou moins rationnelle. Si vous faites l'inventaire au niveau européen, vous constatez que nous avons une variété énorme de systèmes d'armes. On parle de près de 175 en Europe pour une trentaine aux États-Unis. Et tout cela vient du fait qu'il y a 27 décideurs. Chacun décide d'acheter son type d'avion, son type de navire, son type de char de combat. Maintenant, les choses s'aggravent d'ailleurs parce que, compte tenu de cette tradition malsaine, l'industrie européenne a été terriblement affaiblie, et donc aujourd'hui les États ont de plus en plus tendance à acheter, peut-être parfois même en commun, mais à acheter du matériel soit américain, soit turc, soit sud-coréen. C'est quand même une aberration.
Donc on est toujours vassalisé, est-ce qu'il y a vraiment, vous pensez, de la part de certains politiques, une volonté honnête de créer une défense autonome qui s'appuie sur une industrie d'armement européenne.
Oui, mais je ne dis pas qu'ils ne le souhaitent pas et je suis d'accord avec eux pour dire que c'est nécessaire. Mais le problème des politiques, c'est que la plupart d'entre eux aujourd'hui en Europe n'ont plus fait de service militaire, a fortiori ne sont pas officiers de réserve, ils n'ont pas de culture militaire, ils ne comprennent pas les principes de l'art militaire qui ont été formulés par tout un tas de penseurs depuis Sun Tzu et Thucydide dans l'Antiquité. Le maréchal Foch a également brillé par la pertinence de ses cours à l'école de guerre. Parmi ces principes, il y en a un qui est essentiel, c'est l'unité de commandement. Et pour avoir l'unité de commandement en Europe, il faut nécessairement élire un commandant en chef, et il faut l'élire pour qu'il soit légitime.
Et il faut l'élire de quelle manière, selon vous? D'une manière directe, indirecte?
Alors, je ne suis pas le constituant.
Oui, bien sûr, mais il faut, en tout cas, il faut s'appuyer sur une constitution qui le permette.
Voilà, tout à fait. Il faudrait refaire le coup de la salle du jeu de paume. Les délégués français aux États généraux ont constaté l'impasse institutionnelle et ils se sont réunis dans la salle du jeu de paume pour doter la France d'une constitution. Eh bien, il faudrait qu'au niveau européen, des représentants de quelques États qui voudraient aller un pas plus loin, mais qui voudraient vraiment aller un pas plus loin, donc qui voudraient vraiment constituer une coalition de volontaires, il faudrait que leurs représentants au niveau européen se réunissent pour rédiger et approuver une constitution européenne. Alors elle devra ensuite être validée au niveau des États membres, des États constituants, mais à partir de ce moment-là, les choses peuvent aller très très vite.
Alors vous participez à des discussions, des forums sur la défense européenne, vous rédigez de nombreux articles pour cette approche intégrée, cohérente, pour une force de défense commune. Alors, afin de sensibiliser déjà les décideurs, mais aussi le public. Mais l'opinion publique aujourd'hui, que pense-t-elle de ce que vous proposez? Est-ce qu'on peut la mesurer, l'opinion publique européenne, sur l'idée d'un commandement donc reposant sur une constitution? Est-ce que ça ne va pas, d'une certaine façon, braquer aussi l'opinion publique? Qui veulent nous dire, on va nous faire le coup de... c'est les fédéralistes qui nous font le coup des États-Unis d'Europe, sans prendre en compte la menace.
En France, le mot fédéral ou fédéraliste est malheureusement pollué par l'histoire de France. Parce que l'on a parlé de fédération à l'époque des Girondins, on a parlé de fédérés à l'époque de la Commune de Paris,
oui.
Et après la Seconde Guerre mondiale, ou la Deuxième plutôt, les anciens vichistes se sont appelés fédéralistes aussi. Ils ont fondé un mouvement qui s'appelait la Fédération. Donc pour les Français, c'est très compliqué de savoir ce que ça veut dire vraiment la Fédération. Mais en Allemagne, en Suisse, en Autriche, pour ne parler que d'Europe,
oui,
tout le monde comprend très bien ce que c'est qu'un État fédéral et tout le monde constate que ça fonctionne. Donc quand je donne mes conférences en France, je dois toujours prévoir 15 à 20 minutes pour aller... Pour expliquer vraiment ce qu'il faut comprendre par fédération. Voilà. M. Schuman a utilisé le terme, malheureusement, il n'a pas défini correctement. Et surtout, il a dit dans son discours, à la fin, qu'il allait réaliser la fédération au moyen d'un traité. Alors, ce traité a eu le mérite de créer la communauté européenne du charbon et de l'acier, mais il était évidemment incapable de créer une fédération, parce que pour créer une fédération, il ne faut surtout pas un traité qui est un texte juridique externe à l'État, il faut une constitution qui est un texte juridique interne à l'État. Vous ne savez pas faire de l'externe avec de l'interne et de l'externe, ça n'a pas de sens. Malheureusement, plusieurs fois dans l'histoire, Spinelli et puis surtout Giscard d'Estaing ont remis la roue dans l'ornière et ont voulu accoucher d'un traité soi-disant constitutionnel. Eh bien, c'est un oxymore,
c'est
une contradiction dans les termes. Voilà. Si on veut vraiment réaliser l'unité de commandement européenne, il faut une constitution qui désigne un président européen. Pourquoi un président élu au suffrage universel? Et pour qu'il soit légitime, si vous demandez à des parlementaires d'élire président l'un d'entre eux, il aura toujours l'étiquette
d'appartenance, oui.
Luxembourgeoise ou polonaise. Donc, pour avoir un président européen en Europe comme aux États-Unis d'Amérique d'abord, eh bien, on ne peut pas élire un New-Yorkais ou un Californien. Il faut un suffrage universel qui fasse qu'à un moment donné, après la fin du deuxième tour, eh bien, le candidat qui va triompher aura nécessairement une majorité absolue par rapport à ce moment-là, et à ce moment-là, il sera légitime.
Ben, merci.